9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Mardi, c'est à votre santé, 9h-10h, ce nouveau rendez-vous. Bonjour et bienvenue, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Sage-femme, clinicienne et sexologue. On va parler de la lutte contre le cancer aujourd'hui, puisque vous savez, c'est le mois d'octobre rose. Avec nous au téléphone pour en parler, Jocelyne Chevalier. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Philippe.
Vous êtes chargée de mission et de communication à l'Office de lutte contre le cancer en Isère. Il faut savoir que c'est vous et c'est l'antenne territoriale qui est chargée d'organiser la campagne de dépistage en Auvergne-Rhône-Alpes et d'organiser toutes les autres campagnes de dépistage, hein, Jocelyne.
En fait, oui, c'est ça. On est l'antenne territoriale qui avait cette mission d'organiser les trois programmes de dépistage sur l'Isère et on fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on s'occupe du dépistage, vous parliez d'Octobre Rose, c'est bien le mois national qui est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Et nous, on s'occupe aussi du dépistage colorectal, qui est le deuxième le plus fréquent. Et on est un des rares départements où, depuis déjà 2009, on s'occupe du dépistage du cancer du col de l'utérus, même si je sais qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement du sein.
Donc, Octobre Rose, c'est une campagne nationale de dépistage du cancer du sein qui se décline localement. Comment est-ce que vous venez vous inscrire par rapport à l'action de l'INCa?
Bah, disons que c'est une campagne qui est d'ailleurs internationale au départ, hein, et qui est devenue nationale. Et nous, on travaille étroitement avec l'Institut national du cancer, puisqu'on met en application les programmes nationaux selon un cahier des charges très strict. Et on relaie une communication scientifiquement prouvée qui émane de l'INCa, qui émane de Santé France Plus. Donc on est vraiment chargé de santé publique et on relaie Octobre Rose. En sachant, je vais faire un petit aparté, mais on se rend compte qu'Octobre Rose, c'est devenu très connu, très populaire et peut-être un peu trop parfois avec un manque de précision sur qu'est-ce que c'est exactement. Au départ, c'était un mois consacré à une information, une mobilisation des femmes touchées par le cancer. Et puis, ça a été un peu récupéré commercialement par différentes institutions, groupes commerciaux, quoi. Et aujourd'hui, l'INCa, et donc nous, au niveau des départements, donc en Isère, on fait que représenter ce que font les autres départements, hein, en France. Tout le monde fait pareil. On va, on précise cette année les choses, c'est-à-dire qu'on s'est distingué, déjà au niveau graphiquement, en devenant orange, pour qu'on repère bien au milieu d'Octobre Rose ce qui concerne le dépistage du cancer du sein et la prévention. Sachant qu'Octobre Rose, c'est aussi la recherche de fonds, c'est aussi des événements sportifs mobilisateurs de femmes touchées, c'est les traitements. Donc c'était juste une petite précision pour bien redire que nous, on est vraiment...
On est pareil, sur... sauf qu'on est on est orange en Isère, voilà.
Bon. On est pareil, et plus précisément, on s'occupe très modestement de prévention et de dépistage des cancers. On s'occupe pas de recherche de fonds, on s'occupe pas de mobilisation festive, même si c'est parfois des outils qu'on utilise pour toucher les femmes les plus éloignées.
Bien, vous dites que vous faites tout pareil comme les autres, sauf que vous, sur le terrain, vous avez mené une action de sensibilisation au dépistage dans les quartiers classés politiques de la ville.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que nous, on l'a peut-être fait plus connaître que d'autres. Je pense que vous faites référence à une étude très approfondie sur laquelle on a travaillé pendant 18 mois, entre janvier 2016 et juillet-août 2017, et jusqu'à fin 2017 et encore maintenant, on essaie de communiquer là-dessus. En fait, on a eu un financement de l'Agence régionale de santé pour pouvoir mener une enquête et un travail dont l'objectif était de augmenter la participation des femmes de ces quartiers en politique de la ville, mais des femmes...
Donc ce sont les quartiers défavorisés, hein.
Oui, pardon, les quartiers défavorisés, oui, bien sûr, des quartiers où il y a tout un tas de critères économiques, sociaux, qui considèrent que ce sont des quartiers qui sont plus défavorisés et qui ont donc peut-être besoin plus d'être mobilisés puisque il y a moins de prévention, moins de dépistage et peut-être que quand on trouve un cancer du sein, il est à un stade un peu plus...
Mais est-ce que ce qu'il voulait dire, c'est qu'avant, des statistiques que vous aviez, les gens se faisaient moins dépister dans ces quartiers, c'est ça?
On a actuellement des statistiques qui nous donnent des taux où on voit qu'effectivement dans ces quartiers, dans les Iris, on a des taux plus faibles que globalement sur le canton ou sur le département.
D'accord. Vous avez analysé les raisons de ce moindre dépistage?
Alors, on a trouvé dans l'étude dont je peux vous parler des éléments d'explication du pourquoi. On se rend compte par rapport aux déterminants de santé qu'il y a vraiment beaucoup de priorités qui viennent avant la question de la prévention. Le dépistage, c'est quelque chose qui est volontaire, c'est quelque chose qu'on doit faire avant tout symptôme. Et c'est vrai que pour tout un tas de raisons économiques, sociales, culturelles, on se rend compte que dans ces quartiers-là, les femmes, les familles ont bien d'autres priorités.
C'est pas la priorité, ouais.
Voilà, voilà. Donc, et puis, c'est vrai qu'on se rend compte que culturellement, mais on en reviendra, il y a aussi des freins où peut-être on pense pas que c'est vraiment quelque chose qui va apporter un plus, où on peut penser qu'il y a une fatalité qui impose les choses et que faire de la prévention, ça va pas forcément changer la donne. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui amènent à ne pas faire de dépistage. On commence en France à avoir cette culture-là, on en est au départ, au début, mais dans certains quartiers, on a encore plus de travail à faire.
Oui, il y a cette idée aussi de la santé qui est, si je suis dans le silence de mes organes, tout va bien. Donc l'idée de dépister, comme vous dites, dans un quotidien où il y a d'autres éléments prioritaires, cette idée de dépistage, elle n'est pas évidente.
C'est exactement ça. Cette notion de silence, elle est importante à souligner. Et c'est quelque chose qu'on a fait ressortir dans un outil qu'on a créé avec les femmes des quartiers. C'est-à-dire quelque chose où elles disaient, mais moi je sens rien. Donc je vais pas. Il y a rien. Et on a réussi à faire ressortir dans la pièce, y compris dans les discours des femmes après la pièce, puisque il y a des débats qui s'installent, le fait que c'est justement quand on ne sent rien, à un certain âge, qu'il est judicieux, pertinent et qu'il est proposé de faire une mammo de dépistage. C'est justement quand on n'a pas de symptômes. Donc il y avait vraiment beaucoup de chemin à faire pour faire basculer ça.
C'est justement le silence des organes, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble de la population où finalement les gens se disent bah, écoutez, j'ai pas de symptômes, pourquoi est-ce que j'irais me faire dépister finalement pourquoi aller chercher la bête?
Oui, non, mais c'est vrai, c'est exactement ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire que on n'a pas cette culture de prévention où on peut faire des choses toute notre vie avant d'avoir une pathologie. On a plutôt tendance à réagir, mais c'est vrai aussi au niveau médical. On parle avec et on travaille avec tous les médecins généralistes qui sont les premiers et les médecins traitants, les premiers relais. Dans leur cursus, il y a d'abord le traitement de la pathologie avant d'anticiper par la prévention. C'est en train de changer, hein. C'est vraiment en train de changer. Mais évidemment, les femmes, et en particulier dans les quartiers, elles vont d'abord réagir à un problème avant de se dire on agit au quotidien par une hygiène de vie, des examens qui peuvent se faire quand on ne sent rien.
Est-ce que ça change? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très rare de ne pas avoir autour de soi une femme qui soit touchée par le cancer du sein. Je crois que tous, autant que nous sommes, nous avons autour de nous des femmes qui ont été touchées, qui sont nombreuses. Est-ce que finalement, la sensibilisation, elle n'est pas là?
Oui, la sensibilisation, elle est là et c'est un...
La vraie,
un vecteur,
hein.
Oui, c'est un vecteur sur lequel on s'appuie énormément. Tout le monde va réagir en disant « je connais quelqu'un ». Mais il y a quand même ce gap à dire « oui, mais j'ai peur de l'examen. Moi, j'ai peur. » Si elle a été touchée, suivant comment ça s'est passé, il y a tellement de types de cancers du sein différents, on va peut-être en tirer des conclusions générales en disant « mais ça sert à rien de se soigner parce que pour elle, ça s'est peut-être mal passé ». Et puis, l'examen peut faire mal. Pour certaines, il fait mal. Pour d'autres, il fait pas mal. Donc, c'est très personne dépendante.
Ça, on le dit jamais, mais l'examen peut faire mal quand même.
Mais bien sûr, la compression de sein entre deux plaques pour avoir une bonne lisibilité du cliché, suivant les femmes. Alors, il peut faire un peu moins mal à l'âge où le cancer est plus fréquent, à partir de 50 ans. Il y a une désimprégnation hormonale, donc ça peut être moins sensible. Mais il y a des femmes qui, toute leur vie, auront des seins, une glande mammaire très douloureuse. Et l'examen sera, tous les deux ans, très douloureux. Même si elles ont bien pris conscience que ça peut leur permettre de trouver une anomalie plus tôt, même si elles ont pris conscience que ça dure que quelques secondes de compression, c'est vraiment pas agréable. On fait attention. Quand on intervient dans des hammams pour discuter avec des femmes, et c'est quelque chose aussi qu'elles ont vraiment pu apprécier, parce que là, il y a un échange de femme à femme, le corps est au centre du des débats. Elles disent que effectivement c'est difficile de faire la démarche, c'est difficile de d'aller faire un examen pour trouver une maladie, quoi.
Oui, tout à fait. Et de manière plus générale, aller consulter un gynécologue ou une gynécologue est de plus en plus compliqué pour certaines femmes. C'est-à-dire que ça leur demande... Alors, il y a cette idée, effectivement, que dépister, c'est pas totalement compris comme étant quelque chose d'utile. Pourquoi vais-je aller chercher le mal là où je me sens bien ?
Tout à fait.
Et il y a aussi cette idée aussi de pudeur. C'est-à-dire, oui, mais chez le gynécologue, il va falloir me dévêtir, il va falloir me faire examiner. C'est pas le moment le plus agréable pour certaines. Et donc, du coup, tout l'intérêt dans le travail de prévention et donc de communication, c'est justement de pouvoir expliquer aux femmes que, eh bien, le ou la gynécologue a aussi une façon de les mettre à l'aise, de respecter leur pudeur. On n'est plus maintenant, pour beaucoup de professionnels maintenant, on a compris qu'un examen gynécologique, on met pas forcément la personne nue complètement et qu'on peut respecter
sa pudeur, sa
façon d'appréhender aussi l'examen. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent rassurer effectivement les femmes des quartiers défavorisés qui voient la consultation comme vraiment quelque chose d'intrusif.
Absolument, vous avez raison, et je vais même rajouter quelque chose. C'est-à-dire que vous dites au début que maintenant, consulter un gynécologue, ça devient compliqué, parce qu'il y a de moins en moins gynécologues médicaux, et un des éléments qui permet justement peut-être aussi de rassurer les femmes, ça a été quand les compétences des sages-femmes ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de gynécologues, mais les sages-femmes ont cette compétence depuis 2009, où elles peuvent faire le suivi gynécologique, c'est-à-dire la palpation médicale des seins, l'examen gynéco, je parle même pas du frottis, je parle simplement un examen clinique, le questionnaire, dans un suivi gynécologique. Et c'est vrai que rencontrer une sage-femme, ou même son médecin généraliste, souvent maintenant de plus en plus, c'est une femme, et elles ont un suivi possiblement gynécologique des femmes quand il n'y a aucun problème. Maintenant, normalement, c'est vrai que les gynécologues pourraient être réservés et seraient réservés en cas de plus de problèmes.
La pathologie, tout à fait.
De pathologie. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler aux femmes et femmes des quartiers, et ça les rassure quand on leur dit ça. Vos sages-femmes, c'est les femmes qui souvent vous ont accouché, et souvent, une fois qu'on a eu des enfants, on arrête d'aller voir un médecin pour ce suivi gynéco. Et pourtant, elle est toujours maintenant en capacité de vous rassurer, de vous expliquer, de faire cette palpation médicale. Et c'est un des praticiens avec le médecin traitant qu'il faut pas oublier, quoi, pour essayer d'avoir quand même ce suivi. Et ça les rassure, ça c'est vrai.
Tout à fait. Et on a une chance, nous les sages-femmes, lorsqu'on se déplace justement au domicile des patientes qui ont accouché, dans le cadre du Prado, le suivi postpartum en sortie de maternité. Souvent, je prends mon exemple, j'exerce dans une zone justement très défavorisée, Garges, les Gonesse et les alentours. Et lorsque je suis amenée à aller au domicile des patientes qui ont accouché, bien souvent il y a la maman et la grand-mère ou les tantes qui ont 50 ans et plus. Et donc du coup, c'est comme il y a en règle générale 2-3 visites, c'est un bon moyen de pouvoir sensibiliser,
faire
justement
passer les messages
complètement. Et on voit, ça fait comme l'a dit Justine, c'est un peu ambiance hammam, parce que du coup la parole, déjà on est chez les gens, la parole se libère plus facilement. Puis c'est vrai que les sages-femmes, on est assez proches vraiment de des femmes, et du coup il y a cette complicité qui s'installe, et pour le coup elles demandent à venir consulter. Et voyez, on est passé par le biais de la naissance, de l'accouchement de leur fille, et c'est un bon moyen justement de pouvoir sensibiliser ces femmes-là qui par ailleurs n'auraient peut-être pas été dans un centre ou alors tout simplement en cabinet.
Oui, et puis elles ont l'occasion de vous poser des questions directement. Donc c'est pas vraiment la même chose, vous voyez, sur le ça fait mal, comment ça se passe, enfin toutes les questions que se posent les femmes déjà quant au déroulé du dépistage.
Tout à fait.
Et c'est d'autant plus juste, je trouve que effectivement, ça permet d'aborder cette filiation. On sait à quel point l'histoire médicale familiale pèse sur son histoire à soi, les antécédents familiaux. Le fait peut-être d'en parler dans le lien mère, fille, tante, sœur, à la famille, c'est vraiment une situation privilégiée pour pouvoir aborder le sujet. Vous avez absolument raison. Et je pense que ça permet aussi de faire prendre conscience, quand il y en a une qui explique peut-être, parce qu'elle est plus en confiance à ce moment-là, que ben elle a été touchée par ça, par ce type de cancer à un moment, de peut-être expliquer, et ça c'est le professionnel qui peut le faire, vous en tant que sage-femme, ou même nous quand on est intervenu, c'est une infirmière qui est intervenue, elle expliquait, ben voyez, votre maman a eu ça, donc ça veut dire que vous, on va pouvoir, et c'est important que vous le sachiez, vous surveiller plus jeune que 50 ans. C'est important que vous en parliez à votre médecin pour qu'il puisse avoir un suivi qui est adapté à votre cas personnel, parce que votre maman a eu ça. Donc c'est très important justement d'avoir ce lien familial, et en particulier à domicile, ce qui est d'ailleurs ce que faisait notre infirmière Morgane, qui a mené le projet pendant 18 mois dans les quartiers. Il y avait deux interventions directes.
C'est quoi, Jocelyne? Je me permets de vous appeler Jocelyne. Hein,
oui,
Jocelyne.
C'est mon prénom.
On va parler de Morgane dans un instant, puisque Octobre Rose, c'est le mois du dépistage du cancer du sein. C'est notre sujet jusqu'à 10h. À votre santé.
À votre service, reviens dans un instant. 9h, 10h. À votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le mardi, à votre santé avec Nadia El Bouga qui est avec nous. On parle de ce mois octobre rose, le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Tous les mois, d'ailleurs, tous les mois d'octobre, vous recevez cette invitation. Mesdames, si vous avez plus de 50 ans, à vous faire dépister. Nous sommes en ligne aujourd'hui et pour une fois, nous allons en région puisque nous sommes en Isère aujourd'hui avec Jocelyne Chevalier qui est avec nous et qui est chargée de mission et de communication à l'ODLC. C'est l'Office de lutte contre le cancer qui est l'antenne territoriale qui est chargée de mettre les dépistages des cancers, dont celui du sein, en Auvergne-Rhône-Alpes, et de les organiser. On parlait des antécédents familiaux aujourd'hui, et beaucoup de femmes qui ont des antécédents familiaux aujourd'hui sont confrontées à plusieurs messages concernant ces cancers. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, on a ces fameuses opérations qui sont préventives aujourd'hui. Alors, comment se positionner au niveau du dépistage par rapport à ça, quand on a tous ces messages qui arrivent avec des stars, justement, qui sont les porte-parole de ces ablations du sein alors qu'elles ne sont pas malades?
Ben, disons que c'est vraiment les cas rares qui sont les plus évoqués, qui sont les plus visibles. C'est ça qui est terrible. Donc, parce que vous parlez des cancers, du cancer du sein repéré génétiquement, il y a un gène, le BCR4 et 2, qui est repéré clairement comme étant à l'origine du cancer du sein. Mais c'est extrêmement rare. Des personnes comme Angelina Jolie, etc., qui en a parlé, effectivement, c'est un cas qui existe. En fait, ce que les dames doivent savoir, les femmes doivent savoir, c'est que quand, dans la famille, il y a eu un cancer du sein au niveau d'un lien de premier degré, c'est-à-dire ma mère, ma sœur, ma fille, c'est important de le dire au médecin parce qu'on aura un suivi certainement par échographie et mammographie plus jeune que 50 ans. Entre 40 et 50 ans, on aura ce suivi-là. Si on a eu beaucoup d'antécédents du cancer du sein familiaux, c'est-à-dire non seulement la mère, mais la grand-mère, l'arrière-grand-mère, les tantes, les sœurs, là, ça fait un faisceau qui va amener le médecin généraliste ou le gynécologue à dire, attendez, là, on va devoir faire une recherche en oncogénétique pour faire comme un arbre généalogique qui permettra de savoir s'il y a besoin ou pas de rechercher le gène en question. Et si on le recherche et qu'on le trouve, c'est dans ce cas rare où effectivement, le risque étant tellement élevé de développer quasiment à coup sûr un cancer du sein, on va proposer, le médecin va proposer d'enlever la glande mammaire pour enlever l'organe qui va être touché par ce cancer et remplacé par des prothèses. Mais c'est un cas très rare.
C'est très rare, mais et à partir de quel âge ça se dépiste ?
En fait, c'est simplement de dire ce que l'on sait de l'histoire familiale qui va donner l'indication de faire des recherches. Donc si on a, par exemple, j'ai rencontré hier une femme qui avait 25 ans, dont la mère avait eu un cancer du sein à 50 ans, elle en a parlé, mais il n'y a personne d'autre autour d'elle. Donc les recommandations, c'est vous avez 25 ans, il faut avoir une surveillance personnelle du regard, vous regardez les petites choses qui peuvent changer sur vos seins, des anomalies dont on peut parler en détail. Vous touchez quand vous vous lavez, vous vous lavez aussi la poitrine et vous sentez s'il y a des petites aspérités ou des boules visibles, mais c'est tout. Et vous dites à votre médecin que votre maman a eu ça. Et toute votre vie, vous allez une fois par an voir pour un suivi avec palpation médicale. Mais on ne fait pas de mammo trop jeune. Par contre, vers...
Alors attendez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de mammo trop jeune? Pourquoi? C'est à cause de la sécurité sociale?
Non, bien sûr que non. La question est provocatrice, mais vous avez raison. En fait, parce que l'examen, il est vraiment recommandé à l'âge où il est pertinent. D'abord, c'est l'âge où le risque est plus élevé de faire un cancer du sein. Il est nettement plus élevé à partir de 50 ans. Il est de 7% quand on a 25 ans, entre 25 et 30 ans, il est de 7%, donc il est assez peu élevé. Ensuite, parce que l'examen, il est un peu intrusif, c'est-à-dire qu'on va compresser les seins, donc il y a une douleur, mais aussi parce que sur une glande mammaire jeune, on a des risques qu'on appelle radio-induits, puisque ce sont des rayons X qui vont être envoyés pour avoir une image qui permet d'être interprétée, et on va devoir, sur des seins jeunes, envoyer des rayons, ce qui n'est pas bon, et peut-être un peu plus, puisque les seins sont denses, jeunes, pour avoir une image lisible. Donc on risque, alors qu'on veut être rassuré par l'examen, peut-être de créer des lésions qui n'existaient pas. Donc il faut vraiment savoir que faire la mammo, oui, mais pas trop jeune, en fonction...
C'est-à-dire que l'examen n'est pas de bonne qualité et ne donne pas des résultats qui sont satisfaisants, finalement, si on le fait trop jeune, c'est ça?
Voilà, il est toujours de la même qualité, mais il peut créer des effets délétères si on le fait au mauvais âge. Voilà.
Sur la balance bénéfice-risque, en fait, il y a plus de risques de bénéfices à le faire à ce moment-là.
Exactement, exactement. Le faire trop fréquemment et le faire trop jeune, ça peut exposer à des risques. Donc évidemment, si j'étais une femme qui avait des risques d'antécédents familiaux importants, je commencerais et on m'indiquerait de faire une mammographie peut-être plus fréquemment que tous les 2 ans. Mais ce serait une balance bénéfice-risque en faveur de plus de bénéfices que de risques. Donc je le ferais. Si par contre j'ai pas d'antécédents, que j'ai 30 ans et que je veux être rassurée, j'aurais plus de risques à faire cet examen qu'à ne pas le faire.
Vous avez mené une politique de terrain, de sensibilisation de terrain pendant 18 mois dans les quartiers. Finalement, rappelez-nous quels en étaient les objectifs et finalement, quelles sont les conclusions que vous en tirez?
En fait, les objectifs, c'était de sensibiliser les femmes dans ces quartiers-là. D'abord, de les repérer. On a ciblé des femmes qui n'avaient pas pu faire leur mammo de dépistage depuis plus de 2 ans, qui étaient âgées de 50 à 74 ans, qui est l'âge du dépistage, qui habitaient ces quartiers donc dans Grenoble et à Villefontaine. Donc Villefontaine est une ville du Nord Isère, du côté de Lyon, mais toujours dans le département, dans 2 quartiers sur chaque ville. Et donc dans chacun de ces quartiers, on a mis en place plusieurs actions. L'une, c'était de mobiliser les partenaires locaux, sociaux, médico-sociaux. L'autre, c'était de faire des interventions directement auprès des femmes de 2 manières. L'une était par un phoning où on appelait les femmes, on leur disait qu'on était la structure chargée du dépistage.
Et comment vous avez eu mon numéro de téléphone?
Eh bien, simplement, j'ai votre dossier, je le suis, c'est comme ça que je vous invite, et j'ai regardé dans l'annuaire, et je suis infirmière, et je vous appelle simplement pour vous apporter, si vous le souhaitez, un accompagnement sur cet examen qui vous est proposé pour vous dire ce qui peut permettre, ce qui peut ne pas permettre.
Et comment les femmes ont réagi justement quand on les a appelées chez elles?
Et les femmes, alors globalement, elles étaient rassurées dès qu'on disait que c'était une infirmière qui appelait, qui était le cas. Que c'était l'ODLC qui, voilà, la structure est connue, elle écrit régulièrement aux femmes, et que c'était une information. Et puis ensuite, il y avait vraiment des débats, de longues discussions par téléphone, et d'ailleurs dans les 2 modalités, la deuxième étant d'aller les rencontrer en porte-à-porte chez elles. La première, le phoning, était autrement plus pertinent, parce que aller voir les gens sur place, c'était pas forcément toujours très bien reçu, pour le coup. Mais oralement, par téléphone, il y a beaucoup de femmes qui ont trouvé ça très opportun, ce qui a amené, en termes de conclusion, à se dire que c'est une approche qu'on garde et que on essaie de reproduire, qu'on va reproduire sur des quartiers cibles, parce que on explique oralement, parfois on était accompagné d'une femme qui parlait le turc ou qui parlait l'arabe et qui pouvait expliquer aussi dans la langue de la femme ce qu'elle ne comprenait pas forcément dans ses courriers. On pouvait aussi lui donner un dépliant qui était traduit dans sa langue. Il y a des dépliants produits par l'Institut National du Cancer, l'INCa, ou nous, des vidéos qu'on a créées en 12 langues pour expliquer à chacune, on est en santé publique, il faut que chacune ait accès à cette information. Donc, ça a permis tout ça, effectivement, que de pouvoir leur expliquer.
C'est du terrain, quoi. En fait, c'est du terrain, le retour terrain. Au bon vieux terrain.
Mais voilà, voilà.
Bonne vieille méthode, phoning, terrain.
Voilà, et ça c'est resté comme quelque chose d'extrêmement pertinent pour le public qui manque de voilà qui manquait de d'informations précises, qui lisait pas les courriers, etc. Ouais.
Finalement, de ces 18 mois, c'est beaucoup 18 mois. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui fonctionnait en termes de prévention et qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout?
Alors, je vais vous répondre. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur les freins, sur ce qu'on a relevé chez les identifiés exactement. Il y avait clairement le fait qu'il y avait une saturation des messages de prévention et qu'il était difficile de s'y retrouver, de comprendre dans tout ça. Donc, à la fois, elles avaient besoin d'informations, mais parfois, il y en avait trop. Donc, ça est sorti très clairement. Pour d'autres, dans les autres freins, il y avait ceux qui concernaient les professionnels de santé, où le fait le levier était de recevoir le courrier à la maison pour aller rechercher pour aller voir son médecin et avoir la mammographie réalisée. Le frein, c'était que parfois on n'était pas très bien accueilli par le professionnel, que c'était un peu violent, que on avait peur et qu'aller consulter son médecin, ça coûtait une consultation.
Ah oui.
Même si la mammographie, elle, est complètement prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Et enfin, il y avait des facteurs, des freins personnels. Hein, la peur, pas que de l'examen, mais la peur du résultat. Si je fais l'examen, il est douloureux, ça, elles l'ont dit. Et le fait de pas se sentir concernée. Je sais qu'il y en a autour de moi qui ont eu un cancer du sein, mais non, moi, non, je pense que j'ai pas de risque. Ça, c'est ressorti plusieurs fois, très, très fréquemment.
Et finalement, la peur du résultat fait plus peur que l'examen.
Oui. Ah oui, la peur du résultat, c'est-à-dire du cancer, que l'on découvre un cancer alors que je n'ai rien, que je ne sens pas de douleur, elle est énorme. C'est le premier frein qui est évoqué. Hein.
D'ailleurs, certaines disent, je préfère ne pas savoir.
Voilà, c'est ça. Et, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le courant d'information qu'on relaie avec l'Institut National du Cancer, l'INCa, c'est vrai qu'en même temps, le dépistage va permettre de trouver quelque chose ou peut-être parfois ne le trouve pas. Donc il y a aussi cette peur de peut-être trouver quelque chose ou peut-être de ne pas être complètement rassuré parce que parfois on ne les voit pas, ils ne sont pas visibles et on va les trouver à un moment où ils seront symptomatiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les femmes. Juste dans les facteurs personnels, il y a aussi cette notion de fatalité, d'impuissance. Si ça doit arriver, ça
Mektoub.
Arrive. Ouais, exactement, exactement.
Mais c'est ça la fatalité. Hein.
Exactement.
C'est que ça devait être comme ça.
Voilà, voilà. Donc ça ressort, et c'est important en termes de levier de pouvoir expliquer, et c'est là que l'infirmière médiatrice est essentielle, parce qu'elle va pouvoir expliquer ce que ça permet, elle va pouvoir donner des éléments de réponse sur ce Mektoub, et on va comprendre que peut-être c'est pas tant une fatalité que ça, et que à cet âge-là, dans la plupart des cas, quand on le trouve voilà, à un stade débutant, cette tumeur ou ce cancer, il va pouvoir être traité localement.
Jocelyne Chevalier est avec nous. Restez en ligne, vous êtes chargée de mission et de communication à l'Office de lutte contre le cancer en Isère. Et on parle du dépistage du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose ce matin.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre service avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on parle du dépistage du cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, aujourd'hui avec Nadia Elbouga, et puis notre invité qui est en Isère, c'est Jocelyne Chevalier, chargée de mission et de communication à l'Office de lutte contre le cancer en Isère, qui organise notamment les campagnes de dépistage des cancers, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Octobre Rose, vous le disiez tout à l'heure, Jocelyne, il y a beaucoup de messages. Donc ça fait des années qu'on fait des émissions sur le dépistage, sur le mois d'octobre. Quels sont les messages finalement, les messages simples que vous avez envie de faire passer ce matin aux femmes?
Très simplement, c'est que à partir de 50 ans, il y a un risque plus important d'être touché par ce cancer du sein pour toutes, qu'il existe un examen, la mammographie, qui est proposée gratuitement et qu'elle peut être faite en suivi régulier. Donc c'est la première chose, si vous avez la possibilité, vous pouvez faire cette mammographie. Deuxième chose, que quand on a dans une mère ou un antécédent familial qui a eu un cancer du sein ou un cancer des ovaires, il faut le préciser à son médecin traitant pour qu'il puisse éventuellement faire un examen, une échographie ou une mammographie plus jeune que 50 ans. Et toute sa vie, à partir de 25 ans, il est important qu'on ait chacune un suivi avec une palpation médicale recommandée tous les ans.
Ah, c'est pas une auto-palpation, hein, c'est vraiment une palpation médicale.
Non, médicale, hein. Qui est technique, qui est avec un médecin qui a une approche très médicale, avec une palpation technique sous le bras.
Les médecins ne le font pas systématiquement, finalement, lors des visites avec les femmes?
Ils ne le font pas systématiquement.
Alors
pas
qu'ils devraient. Hein.
Alors que peut-être, oui.
Ça fait partie de l'examen gynécologique, normalement.
Voilà. Mais encore faut-il que les femmes aillent chez leur médecin. Et c'est là aussi où on rejoint des femmes qui, dans les quartiers, ne vont pas aller voir leur médecin tant qu'elles n'ont rien. Donc c'est important. Et puis, pour terminer, les messages clairs et simples, c'est qu'à tout âge et à partir de 25 ans, au-delà d'un suivi médical tous les ans, c'est important que soi-même, on soit vigilant par rapport à notre santé. Qui mieux que chacune de nous connaît ses seins, les a vus grandir en étant petite, a rêvé d'être une grande dame très jolie. C'est important de regarder ses seins, de voir sur ses seins qu'on connaît s'il y a un changement au niveau de la pigmentation de la peau, au niveau du mamelon, au niveau de la forme du sein, évidemment, en touchant, s'il y a aussi une petite boule, quelque chose de différent de ce qu'on connaît, des modifications par rapport à l'habitude. Et ça, c'est vraiment une info à faire remonter à son médecin. Peut-être qu'il dira, mais attendez, c'est normal, vous êtes au milieu du cycle, c'est pas grave, on saura que c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais si on ne fait pas ce suivi-là, le médecin ne peut pas nous suivre. Je reviens sur l'importance du suivi du médecin, mais encore faut-il que chacune, on aille voir son médecin.
Tout à fait. Je compléterai en tant que sexologue, bien sûr, j'encourage les patientes, les femmes, à se regarder, comme Jocelyne vient de le dire, à s'observer au moins une fois par mois. C'est déjà ça, au moins une fois par mois, pour celles qui ont encore leurs règles, de faire cette observation, cette palpation au niveau des seins une semaine après les règles, hein, parce que c'est aussi lié à la variation hormonale, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour celles qui ont déjà eu leur ménopause, qu'elles se fixent un moment donné, celui de leur choix, et puis qu'elles se tiennent comme ça régulièrement, au moins une fois par mois, qu'elles se regardent, je sais pas, au moment où elles sortent du hammam, même, ou après leur petite toilette, et qu'elles prennent du plaisir aussi, pas s'observer pour voir si éventuellement j'ai des signes de maladie, mais tout simplement voir comment j'ai, comme quand on s'observe pour constater si oui ou non on a grossi ou maigri ou voilà, exactement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, il peut dédramatiser quand on parle d'autopalpation. Parfois, ça peut questionner, surtout les femmes qui n'ont pas l'habitude de se toucher le corps, et même d'ailleurs en se lavant, qui mettent par exemple un gant, une interface entre elles et leur corps, qui ne sont pas à l'aise avec leur corps. Et bien, tout simplement déjà pouvoir s'observer, et comme vous l'avez dit juste très justement, voir qu'est-ce qui a changé en nous d'un mois à l'autre.
Et votre santé, mesdames, nous concerne et on en parle tous les mardis avec vous et Nadia Elbouga. Merci Jocelyne Chevalier d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir été aussi claire. Nadia, je vous dis à mardi prochain.
À mardi prochain. Merci Jocelyne.
Beurre FM, 9h-10h, à votre service, avec Philippe Robichon.